Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Regards Pluriels. Pour cette deuxième édition, je propose d'aborder le sujet de l'endométriose, dont la journée mondiale est le 26 mars de chaque année. Pour l'occasion, j'ai choisi d'inviter Marie-Pierre Gerboux, conseillère en hygiène de vie et naturopathie et spécialisée dans l'accompagnement de l'endométriose et la spondyliarthrite. Alors, Marie-Pierre consulte en ligne sur toute la France. Donc, Marie-Pierre, bonjour.
Bonjour, Katia, et merci pour cette invitation.
Je t'en prie, merci d'avoir accepté, en fait, également. Alors, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'endométriose ?
Bien, l'endométriose est une maladie gynécologique. On retrouve dans la racine du mot endométriose, donc endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse la paroi interne de l'utérus et qui va être expulsé chaque mois au cours des règles. Donc, cette maladie gynécologique, se caractérise par la prolifération de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine, donc dans des endroits où ce tissu ne devrait pas être. Ça peut être les ovaires, le péritoine, l'intestin, la vessie. D'ailleurs, les atteintes digestives concernent près d'un tiers, en fait, des endogirls. Alors, ces cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre vont créer des lésions et produire, être à l'origine de la production de molécules inflammatoires. Et puis à cela s'ajoute le problème d'adhérence, c'est une sorte de toile d'araignée pour donner une image, qui va enserrer les organes et les viscères. Donc pour résumer, c'est une maladie chronique à dépendance inflammatoire, hormonale et immunitaire. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le côté technique, les médecins en fait spécialisés de l'endométriose distinguent en fait quatre types d'endométriose. Une endométriose superficielle, une endométriose profonde, une adénomyose ou l'endométriose de l'utérus, c'est-à-dire que des cellules de la muqueuse utérine pénètrent dans le muscle de l'utérus et créent des lésions d'endométriose, et puis l'endométriome ou kyste ovarien endométriosique et qui peut atteindre un ou deux ovaires. Donc voilà un petit peu pour tracer le tableau de l'endométriose.
Cette définition de l'endométriose. Merci donc Marie-Pierre. Alors moi je vais en profiter pour faire un parallèle avec la psychogénéalogie. En effet, le fait, comme tu le disais, que le tissu endométrial se retrouve en dehors de la cavité utérine et que la fonction de l'utérus, la première fonction de l'utérus, est la nidification et la reproduction, en fait, on peut s'interroger sur la symbolique possible de l'endométriose. Alors, elle pourrait être liée à un refus inconscient de la maternité, provenant en fait ainsi de ce qui a pu se passer dans une génération antérieure, par rapport notamment à une naissance ou encore à un enfant qui aurait été par exemple donc séparé de sa famille d'origine. Il pourrait également être intéressant en fait, en songeant à l'endométriose, de s'interroger sur la notion de culpabilité, celle de l'endogirl, donc la personne qui souffre d'endométriose, parce qu'elle craint de ne pas être à la hauteur en tant que future maman, de ne pas pouvoir en fait offrir à ce futur bébé le meilleur, enfin en tout cas au moins tout ce qu'elle pourrait donc lui offrir en tant que maman. Et il se pourrait aussi que l'endogirl doute de la stabilité de son couple, en tout cas suffisamment pour envisager donc l'arrivée d'un enfant au sein de cette famille. Voilà moi ce que j'avais en fait à dire au sujet de la psychogénéalogie. Ce ne sont évidemment que des pistes d'investigation et celles-ci sont impérativement à mettre en lien avec l'histoire de vie et l'arbre généalogique que l'on appelle génosociogramme en psychogénéalogie. Alors Marie-Pierre, on entend de plus en plus parler de cette pathologie, peut-être est-ce parce qu'elle est de plus en plus diagnostiquée. Peux-tu nous dire quelle est sa prévalence aujourd'hui en France ?
Alors on estime en fait que l'endométriose toucherait une femme sur 10 en âge de procréer, ce qui fait un chiffre en France environ de 1,5 à 2,5 millions de femmes, sachant que effectivement il y a une telle errance médicale malheureusement que ce chiffre est peut-être sous-estimé parce qu'un certain nombre d'endogirls, en tout cas d'endométrioses, ne sont pas encore diagnostiquées.
Très bien, donc ce chiffre-là peut expliquer finalement la journée donc qui lui est consacrée. Est-ce que finalement ce chiffre suffirait à expliquer cette journée ?
Alors oui, en tout cas, beaucoup de choses sont faites pour permettre à ce que cette maladie soit reconnue, mieux connue et inciter en fait les jeunes filles ou les femmes qui souffrent de douleurs gynécologiques de pouvoir être plus facilement diagnostiquées et reconnues.
On a parlé en fait de cette errance, donc tu disais qu'il y avait en fait un temps moyen. Est-ce qu'il existe en fin de compte pour certaines personnes une errance qui soit plus importante que pour d'autres ? Et si oui, à quoi est-elle due ?
Alors oui, effectivement, il y a un problème d'errance médicale. Alors on estime le temps moyen de diagnostic à 7 ans. Alors un temps moyen, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que certaines femmes vont avoir la chance d'être diagnostiquées au bout de quelques mois, voire de quelques années, alors que d'autres devront attendre une décennie. Donc c'est un peu la problématique du temps moyen d'errance, et tout le travail qui est fait aujourd'hui permet justement, ou essaye, de réduire cette problématique d'errance.
Donc après nous avoir décrit notamment ce qu'est l'endométriose, est-ce que tu peux nous parler des principaux symptômes de cette maladie dite chronique ?
Alors les symptômes sont multiples, hein. Ils vont aussi dépendre de la localisation en fait des lésions. Mais d'une façon générale, le symptôme le plus important, en tout cas le plus explicite, c'est la douleur gynécologique. Alors effectivement, ce sont des douleurs intenses au moment des règles. Alors, on peut faire une petite parenthèse et préciser que toutes les femmes qui souffrent de douleurs pendant leurs règles n'ont pas l'endométriose. Là, on parle de douleurs qui sont vraiment intenses, qui ne vont pas céder à la prise d'un antalgique léger, qui vont être des douleurs qui vont être handicapantes dans la vie de tous les jours, qui vont plier de douleur. Il y a certaines femmes qui en sont au point de vomir, voire de s'évanouir. C'est vraiment une intensité, parfois même au point de se retrouver aux urgences. Et puis, à ces douleurs intenses, de douleurs aussi bien pelviennes, donc du bas du ventre, abdominal ou lombaire, s'associent en fait un certain nombre d'autres problématiques. On peut parler de troubles du transit, avec une alternance de diarrhée, de constipation, de ballonnement, hein, ce que les endogères appellent l'endobélie, de douleurs aussi lorsqu'on va à la selle, de douleurs lorsqu'on urine, de rapports sexuels aussi qui vont être particulièrement douloureux, parfois même simplement l'introduction d'un tampon peut être un acte qui devient douloureux, et puis aussi une hypofertilité.
Donc comme tu l'as dit, en fait effectivement ces symptômes ne sont pas nécessairement associés à l'endométriose. En revanche, est-ce que l'intensité des symptômes et de la douleur sont un signe de la gravité des lésions ?
Alors non, la douleur n'est pas obligatoirement en rapport avec l'importance des lésions ou leur gravité. D'ailleurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, il peut y avoir des formes asymptomatiques d'endométriose, c'est-à-dire asymptomatiques qui vont se développer sans bruit, sans douleur, et qui vont être découvertes d'une façon tout à fait fortuite lors d'un bilan fertilité, par exemple.
D'où l'importance, si jamais il n'y avait pas donc de bilan de fertilité, parce qu'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, d'où l'importance de consulter si on est confronté à certains de ces symptômes-là. Et selon toi, en fin de compte, comment et qui peut diagnostiquer l'endométriose ?
Alors oui, effectivement, il faut bien garder présent à l'esprit que souffrir comme ça, c'est pas normal. Il faut s'enlever de la tête que avoir mal pendant ses règles, c'est normal, et que si on y plie en deux, c'est normal aussi. Non. Donc effectivement, l'ensemble des symptômes peuvent correspondre à d'autres choses. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut penser qu'avoir mal comme ça, ce n'est pas normal. Il faut consulter. De préférence, un professionnel de santé, et de préférence, quelqu'un qui va être spécialisé dans l'endométriose, ça sera aussi un avantage. Un atout, parce que ça pourra permettre de poser un diagnostic plus rapidement.
Donc on a vu, par rapport en fait aux symptômes que tu as décrits, qu'ils peuvent prendre différentes formes, selon donc évidemment les personnes concernées. Est-ce que tu peux faire un état des lieux relativement bref des répercussions de l'endométriose, notamment sur le quotidien en fait des endogirls ?
Alors c'est vrai que c'est une maladie qui ne fait pas que des dégâts physiques. Elle va impacter le quotidien de la femme, son entourage, son estime de soi, son intimité, sa féminité, sa vie de couple aussi. On en a parlé avec des douleurs lors des rapports sexuels. C'est quelque chose qui peut impacter en fait la vie intime du couple. Des relations sociales aussi peuvent être impactées, tout comme les relations familiales, la vie professionnelle aussi, en raison de l'absentéisme, des licenciements pour cause d'inaptitude au travail, ou le fait de se résoudre à abandonner un travail qui plaît parce qu'on n'est pas à même de poursuivre en raison des symptômes chroniques dont on souffre.
Donc on voit bien la nécessité finalement de mettre en avant l'endométriose, et donc la nécessité aussi de la diagnostiquer le plus précocement possible pour qu'on puisse mettre des mots en tout cas sur notamment donc les douleurs, mais aussi expliquer aux autres pourquoi en fait nous sommes dans cet état-là, quoi. Donc on l'a dit en début d'émission, tu es spécialisée dans l'accompagnement de l'endométriose. Quelle est selon toi la prise en charge, enfin en tout cas la plus adaptée à envisager pour une endogirl ?
Alors véritablement, ça va être une prise en charge qui doit être pluridisciplinaire à mon sens, parce que c'est ce qui va permettre de prendre en charge l'ensemble de la problématique, des douleurs, de l'inflammation, des hormones, de la fertilité, enfin l'ensemble. Et par pluridisciplinaire, j'entends bien à la fois la médecine allopathique, donc avec une prise en charge par un gynécologue, un endocrinologue, un centre PMA si besoin, le centre antidouleur, une sage-femme, et tout ça avec la médication qui est associée. Et puis aussi, on peut associer avec des techniques manuelles et réflexes, comme l'ostéopathie, la réflexologie, l'acupuncture, et puis toutes les approches psychocorporelles, comme peuvent l'être la psychothérapie, la sophrologie. Certaines endogirls ont recours au yoga et ou à l'art-thérapie avec succès. Et puis après, il y a des approches complémentaires, comme la naturopathie que je pratique.
Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler des apports de cette discipline? En quoi la naturopathie apporte un bien-être pour les femmes qui souffrent d'endométriose?
Alors oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet de parler de tous les apports que peuvent apporter la naturopathie au niveau de la qualité de vie et du mieux-être. Alors peut-être qu'avant, si tu me permets, je pourrais définir un peu ce qu'est la naturopathie pour qu'on comprenne bien. Que la naturopathie, en fait, son principe, c'est vraiment d'aider à préserver la pleine santé en donnant les moyens à l'organisme de conserver son énergie vitale, sa force vitale. Elle a pour but d'équilibrer le fonctionnement du corps par des moyens qui sont dits naturels, c'est-à-dire l'alimentation, l'hygiène de vie, la mise en mouvement du corps, la phytothérapie au sens large, hein. Donc les plantes sous forme d'extraits fluides, extraits secs, l'aromathérapie, la gémothérapie, etc. Et puis la naturopathie, on comprend bien par cette définition, hein, que son action, elle est avant tout préventive. Maintenant, quand il y a des équilibres, eh bien la naturopathie va s'attacher en fait à trouver la cause de la cause dans l'objectif de rééquilibrer le terrain dans sa globalité, le terrain étant l'ensemble des caractéristiques innées ou est acquise de l'individu. Donc c'est vraiment une prise en charge qui va être globale, qui prend en compte à la fois l'état de la personne, son terrain, son histoire de vie, son hygiène de vie, son environnement physique, psychique, sa médication, ses souffrances. Et tout ça va nous permettre de mettre en place en fait une stratégie au naturel qui va s'articuler autour de quatre axes, à la fois l'assiette, le mouvement, l'axe psycho-émotionnel, et puis également une complémentation qui va être ciblée, bien choisie et respectueuse aussi, en tout cas dont il n'y aura pas d'interaction avec la médication de l'endogirl. Donc voilà un peu, donc il faut bien comprendre, ça ne se substitue pas au suivi médical ni à la médication, mais ça vient en complément.
Oui, bien sûr, il est toujours bon en fait de le rappeler, mais en tout cas, cette approche pluridisciplinaire en tout cas est bénéfique donc, pour mieux vivre l'endométriose. Donc tu disais prendre soin en fait de son assiette, qu'est-ce que tu suggères pour cela? Enfin, qu'est-ce que ça signifie dans le cadre particulièrement de l'endométriose?
Alors, il faut comprendre que prendre soin de son assiette, c'est important parce que manger, c'est pas uniquement apporter des calories ou de l'énergie. Ça suppose aussi d'apporter des nutriments qui vont être des briques de construction qui vont être essentielles au bon fonctionnement du corps. Alors, cela suppose quoi? Eh bien, ça suppose d'apporter des nutriments qui vont être, ou des micronutriments qui vont être essentiels pour aider le corps à faire face en fait à cet état inflammatoire ou au stress oxydatif. Donc, on va veiller en fait au contenu de l'assiette pour apporter des antioxydants, du zinc, des vitamines E, du magnésium. Puis, prendre soin de son assiette, c'est aussi un levier intéressant sur l'inflammation. Donc, on connaît aujourd'hui des aliments qui vont être pro-inflammatoires comme les graisses trans, le gras saturé, le sucre. Donc, on va limiter en fait tous ces facteurs-là, ce qui va être aussi un levier. Et puis, prendre soin de son assiette, c'est aussi prendre soin de son système digestif. Alors, dans le système digestif, je pense particulièrement au foie, qui est intéressant pour la détox des hormones, et puis aussi à l'intestin, puisqu'on sait aujourd'hui que le microbiote, ou cette flore intestinale, comme on l'appelait autrefois, est aussi impactée par les hormones, mais peut impacter les hormones. Donc, voilà, ce serait difficile on n'a pas assez de temps pour expliquer, en fait, ce phénomène-là, mais c'est important. Donc, ce qu'on va manger va permettre de nourrir, en fait, notre bon microbiote, le protéger aussi. On sait, par exemple, l'impact que peuvent avoir certains pesticides ou conservateurs ou additifs. Et puis, voilà, on peut faire aussi attention lors de prendre soin de son assiette, c'est aussi veiller aux perturbateurs endocriniens qui peuvent aussi accentuer la problématique.
Donc, en dehors donc, de prendre soin de son assiette, Marie-Pierre, quels sont les autres éléments à prendre en compte donc, pour qu'une endogirl fasse face à cette pathologie donc, dite chronique?
Alors, merci beaucoup pour ta question, parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est qu'un élément de l'équation hein, par rapport au mieux-être que peut apporter en fait, la naturopathie. Les éléments qui vont être à prendre en compte, eh bien, par exemple, il y a le stress, parce que tout stress va accentuer l'inflammation. Donc, apprivoiser son stress, c'est aussi intéressant pour avoir une action sur la douleur. Le sommeil aussi, c'est un autre paramètre. Pourquoi ? Parce que l'endométriose est une pathologie qui est aussi bien épuisante physiquement que moralement. Alors, pour ça, on a plein de choses hein, qu'on peut faire. On a des techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque, des techniques de la sophrologie, avec des visualisations, Les huiles essentielles aussi en olfactothérapie sont très intéressantes. On pense souvent à la lavande, mais par exemple l'huile de petit grain bigarade est une huile que j'aime beaucoup, qui est un bon équilibrant au niveau émotionnel. Et puis on a toute une panoplie aussi de plantes qui vont être intéressantes pour les troubles de l'humeur. Le safran, le griffonia aussi, qui aura d'autres intérêts aussi dans le cadre de migraines ou de fibromyalgie. Et la jouaganda aussi, qui est une plante adaptogène, très intéressante aussi bien pour son intérêt pour le sommeil, pour le stress, pour apaiser l'anxiété, mais qui a aussi des propriétés sur les phénomènes inflammatoires.
Bon, on voit bien de toute façon la relation qu'il peut y avoir effectivement entre les douleurs, l'inflammation et donc les troubles du sommeil et le stress, puisqu'effectivement, comment dormir convenablement quand nous sommes meurtris de douleurs et comment faire fi de tout ça quand nous en sommes là également et par rapport en fait au stress, à la gestion en fait du stress. Est-ce qu'il y a donc en dehors de l'alimentation d'autres moyens susceptibles d'apporter par exemple du confort, et je pense notamment au système digestif? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire face en fait à d'éventuelles difficultés?
Oui, alors pour le système digestif, donc j'en ai un petit peu parlé sur le fait de l'importance de veiller à son foie et à son microbiote. Maintenant, bien évidemment, on va commencer par l'assiette, mais parfois une complémentation peut être utile. On peut penser en fait à la vitamine du groupe B qui vont être intéressantes pour la détox hépatique, à la glutamine, au bourgeon de noyer qui est aussi un grand régénérateur du système digestif. Et puis on peut aussi associer cela à d'autres, on peut penser à toutes les plantes, hein, du foie, l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie, l'achillée millefeuille aussi, qui à la fois aide à détoxifier le surplus d'œstrogènes, mais qui aussi a une action sur la congestion utérine.
Donc en début d'émission, tu as évoqué les douleurs qui étaient associées à l'endométriose. Comment la naturopathie peut-elle venir en aide aux endogirls pour les soulager?
Alors, on a parlé tout à l'heure, par exemple, des plantes comme l'achillée millefeuille, mais il y a d'autres choses naturelles qui peuvent venir en soutien. Par exemple, on a aussi la camomille matricaire, ou Matricaria recudita. Alors, c'est une plante qui est très intéressante dans les douleurs de règles. C'est un bon anti-inflammatoire et aussi un antispasmodique intéressant. Il est intéressant lorsqu'on a des douleurs associées à une lourdeur, à une congestion au niveau de l'utérus, des crampes, avec un terrain hypersensible à la douleur. Donc c'est vraiment un produit intéressant qui n'est cependant pas à favoriser là, si on a des règles très abondantes. Et puis on a les bourgeons de vigne ou Vitis vinifera. Là on a un anti-inflammatoire, un outil utile pour lutter en fait contre l'inflammation. Il est efficace avec sans en avoir les inconvénients des anti-inflammatoires classiques. Donc il peut être très intéressant, par exemple aussi en complément des bourgeons de framboisier.
Donc je suppose que tu préconises en tout cas d'être vigilant à la provenance en fait de tous ces produits et substances, et notamment en fin de compte la composition en fait de celles-ci.
Alors surtout attention, parce que les plantes, ça peut être, oui, ce sont des remèdes naturels, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de contre-indications, ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'auront pas d'interaction avec les médicaments. Donc voilà, avant de se lancer dans une complémentation, en tout cas d'une auto-complémentation, il est intéressant de demander conseil à son pharmacien qui pourra vérifier la compatibilité avec les médicaments, et puis aussi à son médecin ou encore à son conseiller en naturopathie.
Eh bien écoute, c'est la fin de cette émission. Merci Marie-Pierre. Donc je rappelle Marie-Pierre Gerbou, conseillère en hygiène de vie et naturopathie. Si vous voulez en savoir plus sur son actualité, eh bien vous pouvez la suivre sur Instagram via @naturobienfait. Merci également à David Marion qui était à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Active, sur le www.radioactivefm.fr. À bientôt.